7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, le journal de l'international. Bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction le centre de l'Afrique sur les rives du lac Tchad.
Oui, l'un des plus grands d'Afrique, près de 1500 km², 15 fois la superficie de Paris, et un lac dont les eaux sont douces. Plus de 20 millions de personnes s'y approvisionnent donc chaque jour dans ces quatre pays limitrophes, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Un lac qui est aussi bien sûr un axe de communication, d'échanges économiques, mais malheureusement aussi, depuis quelques années, l'une des bases arrières de Boko Haram. Et le groupe islamiste a beau essuyer de sérieux revers avec l'opération militaire conjointe de ces quatre pays, et bien il reste pourtant très actif dans toute la région. Bonsoir Valérie Crevard.
Bonsoir.
Grand reporter à Radio France, et vous rentrez tout juste du lac Tchad, où cette présence et cette menace de Boko Haram se fait presque partout sentir.
Oui, c'est une vaste étendue d'eau qui s'assèche au fil des années, parsemée d'îlots qui sont autant de refuges potentiels pour les combattants de Boko Haram, surtout depuis que ces derniers subissent une forte pression militaire dans le nord-est du Nigeria. Le lac Tchad a de tout temps été un lieu d'échange et de commerce dans le centre de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est toute l'économie de la région qui est touchée par la guerre que livre Boko Haram. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur le marché de Bagassola, une petite ville située sur les rives du lac, qui a été visée par un triple attentat suicide de Boko Haram en octobre dernier. Aujourd'hui, les habitants de Bagassola subissent de plein fouet les conséquences de la crise.
Est-ce que les prix ont augmenté ?
Très augmenté les prix.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a augmenté ?
Le sucre, au début on vendait le sac à 25 000 francs, maintenant c'est devenu 28 000 francs.
Français CFA.
Bon, le maïs, à chaque fois on achetait à 15 000, 15 000, maintenant c'est devenu 25 000 francs le sac.
Et tout ça c'est lié à l'attentat de Boko Haram ?
Avant c'était très calme, mais après l'événement de Boko Haram, vu maintenant la fermeture de la frontière, la distance, c'est ça qui a même causé l'augmentation des prix.
Il faut savoir que la navigation a été interdite sur le lac par les autorités militaires tchadiennes pour bloquer Boko Haram, ce qui oblige les commerçants tchadiens à faire un long détour pour vendre leurs marchandises au Nigeria, comme nous l'explique le vice-président des commerçants de Bagassola.
L'aspect économique est très changé. Maintenant, si on voulait partir au Nigeria, on fait 4 jours avant d'aller au Nigeria. On prend la route d'aller au Niger, on fait une journée. Après, on va aller dormir à Diffa. Diffa, on prend un bus, on va aller dormir à Zander, au Niger. Après Niger, on peut prendre un taxi pour aller dormir au Kano. Donc la route est très, très longue.
Avant, vous alliez au Nigeria, ça vous prenait la journée ? Vous traversiez le lac ?
Oui, avant, on traversait le lac pas une journée.
Pourquoi vous ne pouvez plus traverser le lac maintenant ?
Le problème de Boko Haram. Les gens sont dans les îles.
Les gens de Boko Haram, ils se cachent dans les îles ?
Oui, ils se cachent dans les îles.
Voilà, et justement, une autre conséquence, Valérie, de cette lutte contre Boko Haram, c'est le nombre impressionnant de déplacés. L'armée tchadienne a évacué de force une multitude de ces îlots, obligeant des dizaines de milliers d'habitants à vivre aujourd'hui dans des camps tout autour du lac.
Oui, ils sont environ 50 000 déplacés tchadiens qui s'ajoutent aux milliers de réfugiés venus du Nigeria. La plupart de ces déplacés vivaient de la pêche. Jonathan est arrivé il y a un an dans un camp près de Bagassola. Il suit attentivement la situation.
Vers les îles, là, il y a toujours les Boko Haram qui attaquent. On attend toujours l'attaque dans la radio. Même dehors des îles, des lacs, là, même, ils sont là. La semaine passée, même, on a écouté qu'ils ont parti attaquer les armées nigériennes qui à la frontière Niger-Nigeria. Même vers Bama, ils ont attaqué aussi.
Bama, c'est où ?
Bama, c'est sous-préfecture de Maïdougouri, quoi.
Donc ça, c'est au Nigeria ?
C'est Nigeria, toujours.
C'est l'état de Borno.
L'état de Borno, oui. L'état de Borno.
L'état de Borno qui est le fief historique de Boko Haram. Mais depuis que la force multinationale africaine composée de 8500 hommes a été mise en place, le groupe s'est replié dans des réduits. Où se trouve-t-il ? J'ai posé la question au général Patrick Bretous. Il commande l'opération Barkhane à N'Djamena, la capitale tchadienne, où sont basées 4 rafales qui survolent la zone du lac Tchad. La France fournit du renseignement au Nigeria et à ses voisins.
Boko Haram aujourd'hui conserve encore 2 ou 3 petits sanctuaires dans la province du Borno, mais n'est plus capable par exemple de mener des raids à N'Djamena ou de menacer la capitale du Niger, Niamey.
Pour autant, quand on est dans la région du lac Tchad, côté tchadien, on nous dit qu'ils sont toujours très présents sur les îles.
Alors effectivement, puisque la région du lac Tchad est une zone lacustre, dans laquelle il y a des îles, il y a des rivières, il y a des lacs, des étangs, donc il est bien évidemment très difficile d'éradiquer totalement Boko Haram, qui conserve un certain nombre d'implantations, desquelles petit à petit ils sont délogés par les offensives de la force multinationale.
Mais c'est une menace qui existe toujours.
Oui, c'est une menace qui existe toujours. On ne peut pas dire qu'elle soit éradiquée. Elle conserve encore deux ou trois zones sanctuaires. Il y a les monts Mandara, il y a la forêt de Sambisa. Il y a aussi une partie de la zone du lac Tchad, la plus au sud-ouest, la plus au Nigeria. Et donc ce sont des zones qui font l'objet d'opérations qui sont en cours ou qui vont se dérouler, mettant en action la force multinationale.
Voilà, c'était le général Bretous, commandant de l'opération Barkhane à N'Djamena, au Tchad.
Et reportage signé Valérie Crova, merci beaucoup. Sachez encore que François Hollande participera en fin de semaine à Abuja, la capitale du Nigeria, à un sommet consacré à la lutte contre le groupe islamiste, avec les chefs des quatre États concernés, plus les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui soutiennent cette coopération militaire. En bref, l'armée belge appelée en renfort dans les prisons en grève et chez nos voisins, bien c'est tout simplement du jamais vu. Les personnels pénitentiaires belges sont en grève depuis maintenant 2 semaines pour protester contre leurs conditions de travail et particulièrement le manque d'effectifs, sous-effectifs chroniques qui, selon leur syndicat, aggravent les tensions et la violence en prison. Et pour l'instant, c'est la grève elle-même qui fait monter la température carcérale. Certains détenus ne peuvent plus prendre de douche, ni même simplement avoir 3 repas par jour. Plus de promenades, plus de parloirs, plus de rencontres avec leurs avocats. Situation tellement explosive que police et Croix-Rouge belges en ont appelé au gouvernement, qui a donc décidé ce matin de mobiliser 6 pelotons de 30 soldats à Bruxelles et dans plusieurs établissements sensibles de Wallonie. Troupes qui pourraient encore être renforcées, Nicolas, si la grève s'enlise.
Et l'on part maintenant pour les Philippines, Michael, en ce jour d'élection présidentielle.
Et un scrutin présenté par nos confrères philippins comme celui de tous les dangers, possible coup d'État, futur gouvernement révolutionnaire, retour de la junte. Voilà quelques commentaires de la presse ce matin. Et avec un candidat qui divise le pays, on l'adore ou on le déteste, c'est Rodrigo Duterte, le maire de Davao. On vous en parlait ici même la semaine dernière. Un homme politique qui a fait de la lutte contre la criminalité son fonds de commerce électoral, prônant la tolérance zéro, la violence contre la violence. Grand favori des sondages, qui était en meeting ce week-end à Manille, à quelques kilomètres de ses deux principaux rivaux. Et notre correspondant Gabriel Kahn y était lui aussi.
Les électeurs philippins vont renouveler la plupart de leurs représentants politiques, et en particulier le président du pays. Selon les sondages, 2 candidats seulement ont de réelles chances de succéder au président Aquino. Un temps favorite des sondages, la candidate Grace Poe a été rattrapée ces dernières semaines par Rodrigo Duterte, l'ancien maire de la ville méridionale de Davao, dont le langage macho et populiste séduit, selon les sondages, 1/3 de l'électorat philippin. La sénatrice Grace Poe, une enfant abandonnée, adoptée par un acteur très connu aux Philippines, a refusé de céder aux appels qui lui ont été lancés par le pouvoir pour qu'elle abandonne la partie et se désiste. Elle a tenu son dernier rassemblement samedi dans un quartier populaire de Manille. Ses partisans sont venus la soutenir par milliers.
Je suis contre l'administration actuelle, je suis également contre le programme de Duterte. Par contre, je suis en faveur d'un changement qui soit profitable à tous. Le slogan de Grace Poe est « gouverner avec cœur ». Cela signifie qu'elle se bat pour un véritable changement et pas pour un changement barbare.
Le terme « barbare » fait référence au programme de Rodrigo Duterte, qui a terminé sa campagne avec un rassemblement massif en plein cœur de Manille. Au cours de ce meeting, Rodrigo Duterte a dénoncé les menaces faites à son encontre par l'actuel gouvernement.
Comment osez-vous m'accuser de corruption ou de chercher à instaurer une dictature? On me menace de coup d'État si je suis élu. Dans ce cas, je mettrai en place un gouvernement révolutionnaire.
Selon François-Xavier Bonnet, géographe et chercheur associé à l'IRASEC, le risque d'un retour à la dictature aux Philippines est bien réel.
À mon avis, l'enjeu principal qui se profile pour ces élections, c'est un choix assez cornélien pour les Philippins, entre d'un côté poursuivre la démocratie, le système démocratique actuel, même s'il n'est pas aussi parfait qu'on aimerait bien le vouloir, et d'un autre côté risquer l'inconnu et éventuellement plonger dans une nouvelle dictature.
Le candidat Duterte est en porte-à-faux avec la politique étrangère des États-Unis en Asie du Sud-Est. Il est par exemple favorable à un rapprochement avec la Chine, ainsi qu'à une reconnaissance de la rébellion communiste dont les activités insurrectionnelles sont quotidiennes. Duterte est en outre sensible aux revendications fédéralistes des populations musulmanes dans le sud de l'archipel.
Le reportage à Manille de Gabriel Kahn et les résultats partiels ce soir donnent raison au sondage, puisqu'après dépouillement de 70% des bulletins de vote, eh bien Rodrigo Duterte est en tête avec près de 39% des voix, loin devant la sénatrice Grespo, deuxième position avec 22% des suffrages. Et pour finir, Nicolas, savez-vous pourquoi l'artiste plasticien japonaise Megumi Igarashi a écopé ce matin à Tokyo d'une amende de 400 000 yens, soit environ 3300 euros.
Je vous laisse nous le dire.
Eh bien parce que l'artiste a été reconnu coupable d'obscénité. En cause, les moulages de plâtre inspirés de la forme de son propre vagin. J'œuvre pour renverser la vision masculine du sexe féminin, a dit l'artiste à sa sortie du tribunal, promettant de se battre pour que les Japonais, a-t-elle dit, cessent de tout voir à travers ce prisme du concept d'obscénité. Mais au Japon, où le marché ultra florissant de la pornographie pèse des milliards d'euros, eh bien les représentations d'organes génitaux féminins ou masculins restent formellement interdites par la loi. À demain, Nicolas.
À demain, Michael.